Phil PM. Politique.
Oui, mais comme vous le savez, un conseil d'administration, c'est là aussi pour accompagner le président, mais aussi s'assurer que les règles de gouvernance soient bien suivies. On va s'assurer là, que les personnes qui sont sur le conseil d'administration, en particulier le président ou la présidente, soient une personne qui ait cette expérience, cette compétence.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est une grosse affaire, Hydro-Québec, hein. C'est un gros, gros, gros actif très, très, très important, notamment pour nos finances publiques. Et là, vous avez vu ça passer, hein. Le président du conseil d'administration d'Hydro-Québec a levé les feutres. Avant, je pense, de se faire pousser vers la porte de sortie, je pense qu'il a compris le message. Il a décidé de prendre ses clics puis ses claques et de quitter. Il s'agit de M. Penner. Et c'est le premier dossier qu'on va aborder en compagnie de Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant, communication, stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Donc, c'est François Legault qu'on vient d'entendre, Paul Journet, qui dit, écoutez, moi, le prochain président du CA, ça va être quelqu'un avec de l'expérience et quelqu'un qui a de la compétence.
Oui.
Donc, ça ne sera pas un tsunami.
Ben, moi, j'ai de la difficulté avec cette appellation-là, tsunami. Tu sais, c'est normal que à la tête du CA d'Hydro-Québec, tu as quelqu'un qui partage les visées du premier ministre. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de synergie.
Qu'il y ait un minimum aussi de compétences, là.
Ben oui.
Monsieur Penner, il était compétent pour être président du CA.
Penner, c'est peut-être un cas à part, sauf qu'on va pas commencer à dire que parce que quelqu'un partage les opinions, les visées idéologiques du premier ministre qui n'est pas compétent.
Non,
couleur partisane, ça n'exclut pas la compétence. Tu peux avoir les deux en même temps et c'est normal que c'est ce qu'on recherche. Souviens-toi, Pauline Marois, qui elle avait nommé à la tête du CA d'Hydro-Québec, elle avait nommé Pierre-Carl Péladeau. C'est pas forcément quelqu'un qui avait la plus grande compétence en énergie. Par contre, c'était un administrateur aguerri. Écoute, on sait, il a fait quand même pas mal de choses dans le milieu des affaires. Michael Penner, lui, était très proche de Philippe Couillard durant la course à la direction. Non. Et c'est vrai qu'on ne lui connaissait pas beaucoup de connaissances ou d'expertise sur l'énergie.
C'est parce qu'on avait l'impression.
Il était clairement là parce qu'il était très proche de M. Couillard. Puis voilà. On avait l'impression que ça allait être sa courroie de transmission. Cela dit...
On avait l'impression, dans le cas de Penner, que c'était davantage la partisanerie que la compétence qui avait guidé la décision.
Ben, qui avait passé la partisanerie, comme je te dis, c'est normal, mais il y avait peut-être pas assez de compétences. Il faudrait revoir le CV de M. Penner, mais moi, selon ma compréhension, il n'y avait absolument rien là, qui était lié de proche ou de loin aux questions énergétiques ou aux questions de politique publique. Mais donc, François Legault, c'est normal que là, il va chercher quelqu'un à la tête du CA. Puis je pense qu'il y a deux postes à pourvoir au CA d'Hydro-Québec, à commencer par celui très stratégique de président. Puis il va voir quelqu'un qui est d'accord avec ses orientations. On le sait, de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, la CAQ, c'est le parti qui est le plus hostile à l'énergie éolienne ou à tout le moins le plus sceptique quant à la pertinence de maintenir des investissements au nom du développement économique, d'une filière et du développement des régions, de l'occupation du territoire. Ça, c'est quelque chose qui le distingue. On sait aussi qu'il veut lancer des grands projets énergétiques d'exportation. Quoique là-dessus, même si on peut saluer la vision de M. Legault, soyons clairs, il n'y a rien qui est sur la table à court et peut-être même à moyen terme. Il y a déjà bien des projets en chantier, puis Hydro en a plein les bras à gérer les projets déjà en marche. Là.
OK. Mais en tout cas, ce qui court à Québec, c'est qu'ils vont annoncer le nouveau président ou la nouvelle présidente du conseil d'administration très bientôt. T'entends-tu la même chose que moi?
Oui, c'est normal. Écoute, on ne peut pas laisser un hiatus.
Une société d'État à ce point stratégique.
Ce qui va être important, ce soit que le nouveau CA soit capable de travailler avec le patron Éric Martel.
Oui.
Parce qu'il faut rappeler
ça marchait
que
pas,
Éric Martel avait... Ça marchait au début. Puis Éric Martel avait dénoncé, entre autres, le projet Apuyat d'énergie éolienne sur la Côte-Nord en partenariat avec les Inuits. Le CA, lui, disait, pour qui vous prenez dénoncer le projet du gouvernement? C'est un projet... et là, il y avait vraiment une collision, un choc entre, d'une part, le premier ministre Couillard et le président du CA, et d'autre part, le patron d'Hydro-Québec qui, lui, partageait la vision des choses de François Legault. Donc, M. Martel et M. Legault semblent sur la même longueur d'onde. Il va falloir trouver un président du CA qui est ou une présidente, n'est-ce pas, qui est capable de travailler avec eux.
OK.
Là ça soulève la question, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une indépendance de la part du président du CA par rapport au gouvernement? Parce qu'on parle de partisanerie, c'est une chose, partager la vision, c'est une chose, mais recevoir les ordres et obéir au doigt et à l'œil au premier ministre et à son équipe, c'est autre chose.
Oui. Bien, on va voir. On va voir. Moi, je vais vous dire une chose, là. Vous connaissez l'expression « Hydro-Québec, c'est un État dans l'État ».
Ouais,
moi, à un moment donné, j'étais porte-parole aux ressources naturelles, puis il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, tu sais, Bernard, quand le président d'Hydro-Québec veut régler un gros problème, il n'appelle pas son ministre en titre, il n'appelle pas le ministre responsable des ressources naturelles, il appelle direct au cabinet du premier ministre, et plus souvent qu'autrement, il parle soit au directeur de cabine, soit au PM lui-même. Alors, je suis pas mal certain que François Legault va nommer quelqu'un avec lequel il est capable de jaser rapidement, avec lequel il y a déjà un rapport de confiance ou de respect, parce que c'est, je veux dire, il y a quoi, là? Dans les grandes sociétés d'État stratégiques de l'État québécois, là, il y a Hydro, puis il y a la Caisse de dépôt.
C'est exactement ce que j'allais dire, la Caisse de dépôt aussi, on s'entend, ça, c'est des relations directes avec le bureau du premier ministre.
C'est stratégique. OK, Carl, tu vas nous mettre encore un petit peu plus en beau maudit en nous parlant de Mme Clarkson, l'ancienne gouverneure qui nous coûte finalement encore plus cher qu'on pensait.
Ben oui, c'est ça. Mais écoute, avant de te mettre en maudit, là, je vais essayer de te mettre de bonne humeur parce que pour la première fois, on a posé des questions en chambre la semaine dernière. C'est vendredi.
Woo!
Ça s'est passé, donc c'était avant la nouvelle qui vient de sortir. Mais le Bloc québécois a utilisé le peu de temps de parole qu'il a pour poser des questions. Alors, on peut écouter en rafale le député du Bloc, Gabriel Sainte-Marie et Simon Marcil, et la réponse qui vient du gouvernement de Sean Casey, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Pêches. Alors, je sais pas pourquoi c'est lui qui répond, mais écoutons ce que ça donne.
À elle seule, Adrienne Clarkson nous coûte encore plus de 100 000 $ par année, même 10 ans après sa retraite. Est-ce que le gouvernement va dévoiler dans le détail toutes les dépenses remboursées à tous les gouverneurs généraux et ce, avant que Michael Jean n'entende parler de cette combine?
Les Canadiens peuvent être fiers d'être représentés par des gouverneurs généraux aussi inspirants et dynamiques.
Déjà, on sait que ça ne sert pas à grand-chose d'un gouverneur général et pourquoi les contribuables devraient payer pour ça. Et c'est le bout du bout en plus que ces aristocrates-là n'aiment même pas à dévoiler comment ils dépensent l'argent. Le premier ministre a déclaré qu'il s'attendait à plus de transparence. Est-ce qu'il va nous ouvrir les livres au lieu d'ouvrir son carnet de chèques à cette bande de parasites profiteurs-là?
Nous sommes en train de réviser la politique sur les dépenses.
Oh! Les gros mots.
Ben là, je me disais que t'allais aimer ça.
Mais j'haïs pas ça. Mais écoute, franchement, là, je t'allais.
C'est ça. Et là, la semaine passée, on savait qu'elle dépensait au moins 100 000 $. Mais là, le National Post sort une histoire des sources qui confirment qu'Adrienne Clarkson, depuis la fin de ses fonctions, ses dépenses atteignent parfois le plafond annuel du programme, c'est-à-dire 206 000 $ par année.
Ah, parce qu'il y a un plafond à 206 000. Je pensais que 100 000, c'était assez. Elle peut se rendre à 206.
Le 100 000, la raison pour laquelle on sait qu'il y avait au moins 100 000, c'est que il y a un item de dépenses qui est au-delà de 100 000 $. Et donc, ça apparaît par une bizarrerie comptable dans les comptes publics. Donc, on voit ça comme item séparé parce que elle utilisait ça comme un service d'aide temporaire, 100 000 $ et ou plus. Donc, ça apparaissait. Mais le reste, ça apparaît pas, c'est pas itemisé. Et là, ça pose des questions par rapport à toute la réforme des règles de divulgation de ces fonds-là. Et on sait que du côté de Video Hall et du gouvernement, on regarde ça. Et ce qu'on apprend dans National Post ce matin, c'est qu'Adrienne Clarkson, comme par hasard, a été la principale opposante à toute réforme des règles et qu'elle a résisté fortement à la possibilité que ses dépenses soient divulguées publiquement.
Ah ben oui, ça n'arrête pas de bien aller.
Ben,
ça arrête pas.
Puis là, évidemment, le programme exige essentiellement aucune divulgation publique, mais même Rideau Hall, dans ses pratiques actuelles, proactivement publie les demandes de remboursement des frais de déplacement des cadres supérieurs de Rideau Hall. Donc, c'est fait. Mais dans le cas des anciens gouverneurs généraux, là, c'est ni vu
mais
ni connu.
Mais pourquoi on a besoin de leur OK? Là? C'est notre argent. Ils sont pas élus, ils sont même plus à Rideau Hall, ils sont à la retraite, puis on continue à lui verser des chèques qui ont pas de bon sens. Pourquoi est-ce que le gouvernement met pas ses culottes, puis on lui demande, écoute, on peut-tu juste savoir combien on te paye chaque année, puis après ça on décidera si ça nous tente de continuer, mais on peut-tu au moins avoir l'information?
Il me semble que c'est la moindre des choses, mais quand on pose des questions aux communes, puis qu'on envoie au BAT le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, tu vois tout le sérieux avec lequel le gouvernement prend ce dossier-là.
Oui.
Et là, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura plus que le Bloc québécois qui se lèvera en chambre, parce que cette histoire-là continue, comme tu l'as si bien dit, de mal aller. On a le droit d'avoir les informations sur comment cet argent public est dépensé par des gens qui ne sont plus en fonction,
voilà.
Je le rappelle.
Merci, mon Carl. Tu me fais chaud au cœur. On s'arrête. On continue après la pause. OK, on revient avec Carl et Paul. Carl, tu vas nous parler des les chars du G7 et tu vas me laisser une couple de minutes pour que Paul Journet réagisse à la taxe du 450, le 50 $ là, qu'ils vont envisager. Là. Et Paul, il veut absolument nous dire à quel point il trouve que c'est une bonne idée de taxer à nouveau les automobilistes. Mais parle-nous des chars, là, il me regarde et qui n'est pas content. Charles,
je pense que sur le compte Twitter de l'émission, on peut voir mon adresse postale pour tous les gens qui sont en colère.
Alors, j'écoute Carl. D'abord, les chars du G7, Carl.
Écoute, on parle de taxes puis d'impôts et tout ça, et on sait que le G7, l'organisation du G7, ça coûtait extrêmement cher, 600 millions de dollars. Là, aujourd'hui, c'est encore le National Post qui nous apprend qu'une des raisons pourquoi ça coûtait si cher, c'est que le gouvernement fédéral a dépensé 23 millions de dollars pour acheter plus de 600 voitures neuves. 600 voitures neuves pour le sommet du G7.
OK.
Et là,
ça doit être toutes des voitures hybrides, ça, là, quand tu
écoute bien, je vais te faire la liste, là. 154 Chevrolet Suburban, 140 Chrysler 300, 109 Toyota Sienna, 28 Dodge Chargers, 88 Ford Escape, 43 Mitsubishi Outlanders, 32 Nissan Rogue, 32 Dodge Journeys, puis 7 Ford Explorers qui ont été engagés notamment pour acheter pour des raisons administratives. Je sais pas exactement c'est quoi une raison administrative pour un véhicule de la sorte, mais c'est la réponse qu'on nous donne du côté de la GRC. Mais là, évidemment, le G7 est fini, puis ces voitures-là, le gouvernement en garde seulement 51.
OK. Fait qu'ils vont faire quoi avec les autres?
Bien là, c'est mis dans le site web du surplus du gouvernement.
OK. Fait que ça veut dire qu'on peut aller miser?
Bien, tu peux aller miser. J'ai vérifié ce matin, là, il y avait des Chrysler 300 de Touring là, qui étaient disponibles, là, le modèle Touring qui était disponible, à un bon prix, je dois dire. Mais même avec ça, le gouvernement a de la misère à s'en débarrasser. Il y a du mal à les vendre. Il y a des ventes qui expirent. La mise de fonds n'est pas là. Les gens ne veulent pas miser sur ces véhicules-là. Et là, ça pose des questions. Et pourquoi on a dû acheter autant de véhicules neufs, d'une part?
On n'aurait pas pu les louer.
Mais voilà, on dit que c'était moins cher de les acheter. Alors moi, j'ai un peu de la misère à croire ça. D'autre part, c'est pas comme si on n'en avait pas tenu des événements comme ça là, au cours des années. C'est pas comme si la GRC et l'ensemble du gouvernement du Canada n'avaient pas une flotte de véhicules.
J'ai une Mazda CX-5. Là. Moi, je le relève.
T'aurais loué ça pas cher?
Ben, pas cher, certain.
Ouais, avec un peu de tape, elle aurait été présentable.
Absolument. Il y a une petite bosse, le capot en avant. Là. Je me serais occupé de ça. Là. Aucun problème. Je passe l'aspirateur, un petit push-push, ça sent bon. Quitte à mettre un petit sapin, là, un petit sapin vert. Là, puis, pas cher, moi, là.
Ben, c'est ça, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont acheté des véhicules neufs, puis là, ils sont pognés avec, essayent de s'en débarrasser. Donc, si les auditeurs veulent une aubaine présentement au niveau d'un véhicule presque neuf, parce que ça a centaines de kilomètres, pas plus, ça n'a pas beaucoup de millage, allez sur le site de surplus du gouvernement du Canada, vous allez pouvoir trouver des aubaines.
Yes, syncope. T'as le dit, ça n'arrête pas de bien aller. Paul, parle-nous, Paul, de cette taxe. Paul Journet, mesdames et messieurs, éditorialiste à la presse, qui va maintenant, pour les trois dernières minutes qui nous restent, plaider que ce serait une bonne idée pour les résidents de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, de la banlieue de Montréal, de Laval, de Longueuil et des autres, les 66 municipalités, de payer un beau petit 50$ de plus de taxes au moment où on renouvelle les plaques pour avoir droit à un meilleur service de transport collectif.
Pourquoi il y a un laser rouge entre mes yeux, Bernard, qui se promène? En tout cas, poursuivons. Ce qu'on oublie, premièrement, c'est la question de l'équité. Hein. C'est pas normal que ce soit seulement à Montréal que la taxe soit payée et pas Couronne-Nord, Couronne-Sud.
Arrête.
Il faut se souvenir à l'époque.
Les cinq nouvelles stations de métro qui vont s'ajouter sur la ligne bleue, là, ça s'en va à Montréal. Là. Moi, te dire une affaire, moi. Moi, j'étais député de Longueuil. On est-tu à cette année, le monde de la Rive-Sud puis le monde de la Rive-Nord, de voir qu'on dirait que les projets de transport collectif, il y en a juste pour Montréal. On peut-tu, à un moment donné, le monde des banlieues puis le monde du 450 en avoir un petit peu d'investissement? Le prolongement du métro de la ligne jaune à Longueuil, là, moi, j'étais pour ça, puis j'étais encore pour ça. Oui. Parce qu'à un moment donné, on en paye des taxes puis des impôts. On peut-tu en avoir, nous autres aussi,
bleue,
des projets?
La ligne bleue, elle a été annoncée au début des années 80. Je pense qu'elle est due, hein? la réalise, oui, après 5 décennies en retard, ça serait pas mal. Donc, on va y aller en ordre. Et moi, j'ai jamais dit qu'il fallait pas avoir de nouveaux projets.
Ouais.
Mais pour revenir à la taxe, moi, ça m'énerve quand on cadre juste ça comme étant une question du contribuable, puis on s'intéresse seulement à ce que les gens paient. C'est comme des services. Tu regardes ce que les gens paient par rapport à ce qu'ils reçoivent,
ouais,
et aussi toutes les choses, que les comportements des gens qui occasionnent des coûts qu'eux ne paient pas, mais qui refilent aux autres. Et ça, il y en a pas mal avec les gaz à effet de serre, avec la congestion et surtout avec les infrastructures routières, les infrastructures municipales. En ce moment, la logique depuis, 3-4 décennies,
ouais,
c'est que le nombre de voitures augmente plus vite que le nombre de personnes et on va toujours vers l'étalement urbain.
Ce qui fait qu'on
a plus de
chars,
plus de congestion, oui, plus de coûts. La conclusion, c'est qu'il faut renverser la tendance. Si on n'est pas hypocrite puis on dit qu'on est écolo, qu'on est pour l'environnement, ben, il faudrait assumer, avoir le courage de nos convictions,
oui,
et puis prendre des mesures pour financer les transports collectifs. Mais comment tu vas les financer, les transports collectifs? Tu as besoin de ponctions. Moi, là où il y a un argument auquel je suis sensible, la CA, elle dit la taxe de l'immatriculation, c'est une taxe à la possession d'un véhicule,
oui,
et non à l'utilisation. OK, mais dans ce cas-là, allons-y avec d'autres mesures qui ont été préconisées par la Commission de l'écofiscalité canadienne qui existent dans plein d'autres métropoles.
Mais on paye 3 cents le litre.
Pour réduire l'utilisation des voitures parce qu'on n'a jamais eu autant de chars puis on continue à les utiliser plus que jamais, même si on prétend être écolo. Donc, il faut que les gens utilisent moins les voitures.
Donc, on augmente la taxe sur l'essence? On augmente la taxe sur l'essence?
Sinon, des taxes kilométriques. Il y a plein d'autres mesures, mais il faut que tu finances les transports en commun. Regarde l'enveloppe dans le plan quinquennal d'infrastructure en ce moment.
Mais moi, je vais dire une affaire, Paul.
Entretenir les routes, ça coûte une fortune.
S'ils me disent, là, il me reste 30 secondes. S'ils me disent, OK, on va aller vous chercher tant d'argent de plus et dans 10 ans, voici ce que vous allez avoir de plus comme service, là, je suis parlable.
Mais
tout ce que c'est paye mon cochon. Paye mon cochon, puis après ça, ils vont aller construire des centrales, des stations de métro sur l'île de Montréal.
Mais si on alimente sans cesse le scepticisme puis la paranoïa des gens en disant que c'est du gros gaspillage, jamais ils vont vouloir qu'on cotise des fonds pour financer les transports collectifs.
Mais qui nous disent où c'est qu'ils vont les construire? Qui me disent ce qu'ils vont faire avec le fric? J'ai l'impression qu'actuellement, on paye.
La RTM travaille là-dessus. Elle va dévoiler un plan d'ici un an.
Il y a toutes sortes de plans.
Bon, je me suis emporté, mais c'est pas grave. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Paul Journet, Carl Bélanger, merci à vous deux.
On déjeune, Bernard.
On déjeune.